la prière, s'il te plaît.
Prions notre Dieu. C'est devant ton trône de grâce, Dieu le Père Tout-Puissant, que nous nous approchons ce soir. Un rendez-vous divin que tu nous offres de passer ce temps devant ta présence sainte. Nous glorifions ton nom, Papa, pour ta parole qui nous donne la vie. Nous bénissons ton nom, Papa, pour ce précieux moment où tu viens encore nourrir notre âme. Comme Samuel l'a déclaré, nous voici, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Nous prions, Père éternel, Seigneur, ce que tu as déposé dans nos cœurs. Papa, même maintenant, à travers le temps de partage, que tu puisses ouvrir nos cœurs pour recevoir. Père éternel, rappelle à tout le monde, ô Dieu Tout-Puissant, que le temps est là de partager. Seigneur, ramène à notre mémoire ce que tu nous as dit pendant la méditation, afin que nous puissions être capables de partager les uns les autres. Dieu le Père Tout-Puissant bénit toutes les maisons qui sont connectées. Bénis ceux-là qui sont connectés par notre radio. Bénis, ô Dieu le Père Tout-Puissant, ceux qui vont suivre ce message. Nous glorifions ton nom. Utilise ton serviteur, ô Père éternel, qu'il soit un instrument efficace dans ta main puissante. Nous voulons t'écouter. Utilise ton serviteur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Richard, pour la prière. Frères et sœurs, prenons les textes que nous est recommandé aujourd'hui pour la méditation. Nous sommes à Ézéchiel, au chapitre 34, du verset 17 jusqu'au verset 31. Donc, je vais demander à la sœur Kaba de nous lire les textes, s'il te plaît.
Merci, papa. Je lis en Louis II, Ézéchiel 34, 17 à 31. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans les bons pâturages pour que vous fouliez le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec les côtés et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, il les fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus d'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup, ma sœur Okaba, pour la lecture de ce texte. Frères et sœurs, venez de vous joindre à nous. Nous allons méditer aujourd'hui en Ézéchiel, au chapitre 34, du verset 17 jusqu'au verset 31. Nous allons avoir trois questions qui vont nous aider à approfondir ce texte. La première question, c'est la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, et même voir Dieu le Saint-Esprit? La deuxième question, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il dans ce texte? Et nous pourrons même ajouter, parce qu'il est question d'alliance dans le texte, est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui peuvent nous aider à approfondir le texte? Voilà, frères et sœurs, nous servons le même Dieu que le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a commencé par parler à son peuple très très, rappelons-nous, Dieu a parlé à ceux qui étaient déportés, d'abord ceux qui étaient restés, ensuite ceux qui étaient déportés, et il est venu parler aux bergers, aux responsables, et maintenant, quand il regarde la façon dont le peuple vit, entre eux, il voit vraiment qu'il y a encore là un problème. Non seulement qu'il y a un problème avec ceux qui ont été déportés à cause du péché, mais il regarde les chefs, il y a un problème entre eux, la façon dont ils dirigent le peuple, mais il regarde le peuple, la façon dont le peuple vit entre eux, il y a encore là un problème. C'est ainsi que le Dieu qui parle est en train de parler dans notre texte au peuple et il promet la restauration. Rappelons-nous ici que nous sommes pendant la période après la déportation. Le temps de David est déjà vraiment dépassé des années et des années. Mais comment est-il possible qu'il va encore promettre que j'établirai une alliance et c'est David, mon serviteur, qui sera leur Dieu? Quel David il s'agit encore? Est-ce qu'on va ressusciter David ou ce sera un autre David qui va venir? Il promet au verset 23 que j'établirai à leur tête un seul berger qui leur fera paître, mon serviteur David. Il prendra soin d'elle et sera leur berger. Voilà, le Seigneur va nous révéler dans ce texte une très très grande vérité concernant ce David où l'Éternel promet qu'il va conclure une alliance, et une alliance du verset 25, même jusqu'à la fin, ce sont les termes d'alliance qui vont revenir, les termes de paix, les termes de sécurité, les termes de bénédiction, les termes, tous les termes d'alliance vont venir dans cette restauration de son peuple, avec une nouvelle alliance, avec une nouvelle direction. Voilà, des fois nous pouvons être devant, nous mettons notre micro ou notre appareil juste à côté de la cuisine, nous oublions que nous pouvons facilement déranger la réunion. Voilà, cela dit, avec cette introduction, frères et sœurs, nous pouvons maintenant regarder le texte. Commençons à partir du verset 17. Regardons d'abord la première partie, des 17 jusqu'au verset 24. Parce qu'à partir du verset 25, ça va être une alliance qui va être conclue. Voilà, l'Assemblée a la parole. Vous avez la parole, frères et sœurs, pour intervenir. Voilà, nous commençons avec notre frère Albert. Rappelons-nous que nous ne prenons pas beaucoup de temps. 2 minutes peuvent suffire pour dire vraiment l'essentiel et édifier le peuple de Dieu. Voilà, frère Albert, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, bien-aimé. Je suis à la première partie au verset 17. Comme le frère Célestin l'a dit dans l'introduction, vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur est juste. Le verset 17 et peut-être jusqu'au verset 21, mais je me limite au verset 17, nous révèle la justice de Dieu. Hier, nous avions vu Dieu qui met les responsables, les leaders, devant leurs responsabilités et il démontre clairement ce qu'il leur reproche. Mais au verset 17, le Seigneur nous montre que aussi bien que nous pouvons trouver des boucs émissaires chez nos leaders, nous aussi, en tant que peuple, nous avons nos propres responsabilités et dans son jugement, lui qui est juste, il ne va pas nous épargner et il va nous dire clairement de quoi il s'agit. Mais bien aimé, c'est facile de pointer les doigts ailleurs. Mais le Seigneur nous montre ce soir qu'il faut commencer d'abord aussi par soi-même, avant de trouver les boucs émissaires ailleurs. Parce que dans sa justice, il ne pariera rien. Et dans ce passage, il va démontrer dans la première partie de quoi il s'agit de ce peuple-là. Il y a des animosités entre eux, des positionnements. Et à peu près, c'est la même histoire qu'il reproche chez les leaders qu'il retrouve chez le peuple soi-même. La question que je me pose, qui est le bouc émissaire pour moi? Est-ce que j'ai l'habitude de pointer le doigt ailleurs ou que moi-même j'ai aussi mes propres responsabilités parce qu'à la fin, Dieu me jugera selon mes responsabilités. Merci, que Dieu soit loué.
Merci, frère Albert. La justice de Dieu, nous regardons toujours vers les autres. Le mal, ce sont les autres, mais nous ne savons pas nous regarder nous-mêmes. Comment est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous vivons dans le royaume des cieux? Beaucoup, pasteur José, tu as la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs, je suis encore au verset 17, mais verset 17, c'est pour introduire tout simplement, mais mon verset, c'est le 18. Le verset 17, c'est l'adresse de Dieu au peuple, au troupeau. Hier, comme l'a souligné aussi le modérateur, c'était le tour des bergers. Maintenant, c'est le troupeau. Au verset 18, pourquoi certains d'entre vous ne se contentent-ils pas de paître dans le meilleur pâturage? Pourquoi piétine-t-il encore l'herbe qui reste? Ici, le Seigneur veut montrer que les brebis sont égoïstes. Les brebis ne pensent, certains brebis ne pensent qu'à elles-mêmes. Elle ne pensait pas aux autres brebis. Pourquoi? Parce que quand ils se nourrissent et quand ils mangent, ils piétinent encore une partie des herbes. Ils piétinent, ils s'en vont pour que les autres, quand ils vont venir pour manger, ils puissent manger de l'herbe qui n'est pas vraiment propre à manger, parce que c'est déjà piétiné. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous regarde, regarde la façon dont nous vivons, et il voit que
nous ne pensons pas aux autres, nous négligeons les autres, nous oublions les autres, nous voulons tout pour nous, comme si nous étions seuls sur la terre. Et ce soir, il nous montre que cette façon de piétiner aussi l'autre l'herbe qui est là, alors que là-bas tu as déjà mangé, tu vas piétiner de l'autre côté, ce n'est pas bien. Donc, nous devons, je dois considérer aussi les autres. Je ne dois pas considérer seulement mon propre intérêt et négliger les autres, bafouer les autres. Ce n'est pas bien. Que je laisse cela. Merci, bien-aimé.
Papa José, l'égoïsme, aujourd'hui, il est à outrance dans le corps du Seigneur. On ne pense qu'à soi-même, on ne pense pas aux autres. Et même ses propres intérêts sont toujours au-dessus des intérêts de Dieu. Et même le pâturage est foulé aux pieds. Et quel est le pâturage pour nous? Voilà, merci. Papa Richard, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, Papa, Pasteur Célestin, pour la parole. Le 17e verset, le Seigneur commence par ce terme, « Et vous, mes brebis. » Je vois la grandeur, la grande dimension de l'amour de Dieu pour ses brebis. D'habitude, bon, on ne fait pas sciemment, mais je me rends compte que quand les enfants ont fait des bêtises, quand je parle à mon épouse, je dis « tes enfants ». Et quand ils ont fait de très bons points, je dis « mes enfants ». Ça vient naturellement, parce que quand il y a la joie, on a tendance à s'accaparer des enfants. Mais ici, après avoir fait des bêtises, le Seigneur considère encore ses brebis. Une leçon pour moi, non pas seulement de m'aligner derrière mes enfants quand ils ont fait de bonnes choses, mais du moins de démontrer cet amour au-delà de leurs bêtises, comme Dieu le fait pour moi. Merci.
Merci beaucoup, Dieu. Continue à utiliser mon peuple, mon troupeau. Voici ce que le Seigneur déclare, vous, mon peuple, vous, mes brebis. Une façon de montrer un très grand amour, une façon de montrer que ce Dieu reste le Dieu qui veut prendre, qui continue à prendre soin de son peuple. Merci beaucoup. Papa Thomas, tu as la parole, s'il te plaît.
Je voudrais poursuivre la pensée du pasteur, que le pasteur José a donné, la brebis qui ne pense pas à l'autre est égoïste, au verset 18 et 19, mais en plus d'être égoïste, elle a bu l'eau limpide. Mais avant de quitter, elle préfère troubler avec ses pieds l'eau comme ça, l'autre boit la boue. Donc ça, c'est pas l'égoïsme, c'est un sabot, c'est-à-dire on détruit la vie de l'autre brebis. Parce que l'égoïsme, c'est boire cette eau-là et ne pas donner à l'autre. Mais la brebis ici, elle boit d'abord, et puis elle se dit, peut-être l'autre brebis va venir et boire l'eau. Laisse-moi piétiner ici comme ça, le sable entre, la boue entre dans l'eau, et que ça, l'autre la va boire, ça va lui donner des vers, des terres, ça va le détruire. Voilà l'image que nous avons ici. Donc, une image de quelqu'un qui boit son nom, mais le cadeau qu'il donne, alors il veut s'assurer que quiconque d'autre qui vient après elle, qu'elle puisse boire la boue. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que Et puis ça donne la conséquence au verset 20. C'est, l'agneau là devient maigre, l'autre grossit. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ma vie que je fais qui, pour moi, je suis bien, mais je détruis l'autre de manière, je m'assure que l'autre puisse avoir le mal et moi le bien. Je prie que Dieu m'épargne de ce cœur. Merci.
Merci beaucoup. L'égoïsme continue. Où on détruit pour les citadins, c'est difficile à comprendre cette image, mais si vous avez été au village, vous verrez comment la rivière coule et les gens viennent s'approvisionner. Et là, avant de quitter, quand on s'est approvisionné, on a pris de l'eau pour soi-même, on trouble l'eau, on dérange l'eau pour ceux qui vont venir après. Et cette eau, ça peut être notre église où nous dérangeons pour que la nourriture qui est donnée ne soit pas bien donnée. Ça peut être aussi au FUMES. Ça peut être partout où nous sommes nourris spirituellement, où nous dérangeons avec les critiques. Nous voulons critiquer les responsables, nous voulons critiquer les chanteurs, nous voulons tout déranger pour que ça soit indigeste, que ça ne soit pas vraiment à préparer. Mais aussi, quand je regarde ça sur le plan spirituel, ça peut être que nous n'avons pas le temps réellement de préparer pour que la nourriture soit réellement bonne dans la prière. Nous n'avons pas le temps de préparer la nourriture que nous allons suivre ensemble, que ce soit au sein du FUMES, dans l'église. Nous pensons seulement à nous-mêmes, mais nous ne pensons pas que nous pouvons nous investir pour rendre la nourriture vraiment nécessaire, indispensable, nourrissante pour tous ceux qui avec qui nous sommes en train de nous nourrir. C'est très profond, cette image que le Seigneur utilise pour son peuple. On peut la culture, c'est vraiment interpellant. Papa Gaston, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, pasteur. Vous avez déjà entamé ce que j'avais. Je suis au verset 19. Je vois cette image de l'égoïsme des brebis. Je vois ça au niveau spirituel. Lorsque moi je suis intercesseur, je suis en bonne santé, mais je ne soutiens pas d'autres brebis qui ont des difficultés, qui sont malades ou qui éprouvent des difficultés pour marcher à la même vitesse que la mienne. Je dis moi, je me suffis, je suis en ordre avec l'Éternel, et je commence à critiquer, à juger les autres brebis qui ont des peines à suivre, à se tenir réellement debout. Lorsque moi j'ai mes enfants, je trouve que tous mes enfants se comportent bien, ils évoluent bien sur le plan familial, études, professionnels, et lorsque j'apprends que chez tel, ses enfants ont fait comme ça, je suis prêt à critiquer et non à soutenir, même à prier pour que ces enfants-là reviennent dans la bonne voie. Le Seigneur lui-même nous a montré l'exemple quand sur les 100 brebis, il y a 99 qui sont là et il se donne la peine d'aller chercher la centième. Et quand il retrouve la centième, la joie est grande. Et ici, cet égoïsme est caractérisé dans tout ce que j'ai fait. Lorsque moi, je me mets à table pour manger, est-ce que je songe qu'il y a d'autres brebis qui ont de la peine à trouver cette nourriture? Est-ce que je peux prier même pour que l'Éternel pourvoie assez pour que les autres brebis qui ont de la peine à trouver cette nourriture puissent en trouver? Ou je songe que moi j'en ai parce que je me comporte bien, je passe du temps dans la veillée de prière, je médite la parole. Est-ce que je songe aux autres brebis qui ont des peines à ne pas avoir même les temps, de respecter les temps de prière. C'est ce qui m'a beaucoup interpellé. Merci.
Merci, et Papa Gaston, c'est interpellant pour voir est-ce que nous pensons aux autres. L'égoïsme peut vraiment aller plus loin. Est-ce que nous pensons aux autres? Ou même quand le Seigneur nous a parlé, profondément touché, que ça peut être à l'église, ça peut être au fumet, ça peut être là où nous nous nourrissons. Est-ce que nous pouvons au moins penser que j'aimerais partager cette parole avec un frère ou une sœur, soit qui n'était pas là, soit j'ai toujours l'habitude d'interpeller les couples en disant, voilà, ton mari n'était pas venu. Est-ce que tu as pu au moins avoir le temps de partager avec ce que tu as reçu à l'église? Non. Voilà jusqu'où l'égoïsme peut aller. Et maintenant, il n'y a aucune église qui nourrit les gens comme au FIMES, chaque jour. Alors là, nous avons trouvé que c'est un club, nous nous suffisons nous-mêmes, nous ne pensons plus jamais inviter une autre personne. Ça, c'est encore l'égoïsme. Voilà, j'arrive au verset 20-21. Là, il est question des brebis qui sont bien portantes et des brebis qui sont faibles. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles se bousculent. Elles se bousculent de façon à ce que, même si l'autre peut sortir, ça m'arrangerait. Est-ce que c'est pas ça notre comportement dans l'Église, au sein des FIMES, où nous voulons, avec nos paroles dures, avec nos jugements, avec ceci, pour que les autres quittent et ça nous arrange? Est-ce que c'est pas ça notre attitude? Voilà jusqu'où l'égoïsme peut nous pousser. Non seulement que nous ne savons pas protéger la nourriture que nous avons, nous ne savons pas protéger l'eau que le Seigneur nous a donnée, nous piétinons même ce que nous sommes en train de nous souffrir, mais nous piétinons pour que les autres réellement aient de l'indigestion quand ils vont boire. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout quand on n'est plus dans une assemblée. C'est le moment de détruire, c'est le moment d'inventer des choses pour dire non, là, il n'y a pas de vérité, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Voilà jusqu'où l'égoïsme peut nous amener. Voilà, j'ai continué à parler parce que je ne vois pas, je sais qu'on écoute, mais on doit partager. Je ne vois pas des mains hein, jusque-là. Voilà, j'entends. Ah oui, merci, Papa José. Tu peux prendre la parole aussi.
Oui. Oui, je suis, à la fin du 21e verset. Vous avez parlé, mais je reviens encore, tellement que c'est très profond. Vous avez bousculé de l'épaule et du flanc les bêtes affaiblies. Vous les avez repoussées à coups de cornes jusqu'à ce que vous les avez chassées du troupeau. Jusqu'à ce que vous les avez chassés du troupeau, comme le frère l'a souligné là-bas. Il y a plusieurs façons de chasser les gens. Chasser les gens, par exemple, en racontant des histoires non fondées ou des calomnies. Et une autre personne peut entendre ce que vous êtes en train de parler contre une autre. Là, il dit, mais ici, je ne peux pas rester parce que on raconte beaucoup de choses sur les gens. La personne s'en va. Il est chassé. Parce qu'il n'a pas de place là où il y a des calomnies. Il refuse. Ou tout simplement, lorsque, comme maintenant, on veut mettre l'accent sur le Saint-Esprit, ce qui n'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand on arrive au point de dire que tel n'ont pas le Saint-Esprit, là, c'est on est allé au-delà parce que Christ ne nous a pas montré cela. Alors, quand quelqu'un voit que il n'est pas compté parmi ceux qui ont le Saint-Esprit, il s'en va et dit, ah, là, c'est la place de ceux qui ont le Saint-Esprit. Et même avec certains dons, prenons le cas de dons de langue. La Bible nous dit clairement que tous ne parlent pas en langue. C'est vrai, c'est clair dans la parole. Tous parlent-ils en langue? La réponse est non, mais nous mettons la réponse oui. Oui, tout le monde parle en langue. Comme vous ne parlez pas en langue, votre place n'est pas ici. Donc, bien aimé, on peut multiplier des exemples de chasser les gens au sein de l'Église. Et ce soir, le Seigneur nous parle de tout cela. Ce n'est pas bien. Chasser les gens, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Merci.
Oui, merci, et Papa José. Chasser les gens, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre. L'égoïsme. Et cela, quand nous écoutons une telle parole, peut-être beaucoup d'entre nous disent, ça ne me concerne pas. Mais c'est bien que nous puissions nous regarder notre façon de vivre. Est-ce que nous n'avons pas une part de responsabilité dans notre façon de vivre avec les autres? Merci beaucoup. Je donne la parole au frère Jean-Baptiste, s'il te plaît.
Merci, pasteur, pour la parole. Je voulais juste donner un petit témoignage par rapport à tout ce que le pasteur José des États-Unis venait de dire. Ma femme elle servait dans une assemblée. Et là où elle était, l'une des bébés grâces, qui était maman présidente, et ne cessait de rapporter, comme l'a dit le pasteur José, vraiment des aberrations sur elle auprès du pasteur, qui malheureusement était très complaisant, jusqu'à ce que la veille de notre mariage, cette bébé grâce-là, la maman présidente, avait même ordonné qu'on ne puisse même pas donner ne fût-ce qu'un cadeau à celle qui allait se marier, et même une simple prière n'a pas été faite pour elle par son pasteur et par l'église. Et pourtant, elle chantait par moments à la chorale, elle était active, et elle a été très très choquée par ce comportement, et elle a décidé de quitter parce qu'elle a trouvé que sa place n'était pas là. Et aujourd'hui, je vous parle, même la maman présidente aussi, plusieurs mois après, elle est partie dans la bruit toujours. Donc, c'est pour dire que ce que nous méditons ici, ce n'est pas vraiment des fables, ce sont des vérités que nous vivons au quotidien. Amen.
Amen.
Merci, Papa Jean-Baptiste, de témoigner encore l'égoïsme dans l'Église. Nous pouvons facilement faire partir le peuple de Dieu par notre façon de juger les autres, de considérer les autres. Les autres sont les chrétiens les plus délaissés. Nous, nous sommes les plus saints. Nous racontons en dehors de l'église, ça se raconte au téléphone, des heures et des heures. On ne fait que raconter. Mais cela, comme c'est une boucle, ça arrive aux oreilles de la personne pour qui on raconte. Et l'église est souvent détruite avec ce qu'on raconte sur les autres. Voilà, frères et sœurs, nous continuons. Nous sommes déjà à plus de la moitié de notre réunion. En progressant pour que nous puissions voir cette parole prophétique, j'établirai à leur tête un seul berger et même jusqu'à la fin l'alliance que le Seigneur promet à son peuple. Voilà, Papa Thomas, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Oui, moi je pars
au verset 24, que lui, l'Éternel, il va établir son serviteur David prince. Donc, il parle du fils de David, Jésus-Christ, qui est né donc de la lignée de David, mais au fait, son serviteur, c'est son fils qui a été déjà au ciel, mais qui est devenu dans la chair pour mourir pour nous. Et il parle en Jean chapitre 10, 27 à 29, le Seigneur va dire quelque chose sur la bergerie, et je peux lire ça rapidement. Le Seigneur va dire ces paroles que il dit au verset 27 il connaît, il nous connaît, nous le connaissons, et lui, il nous connaît. Il va dire ceci, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés plus grand que tous et personne ne peut les arracher de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, le Seigneur a confirmé donc cette promesse qu'il est le bon berger. Dans le chapitre 10, il va dire, c'est moi qui suis le bon berger. Et je connais les bergers, les brebis que je suis, le berger que je suis. Vous êtes mes brebis. Il va dire au verset 11, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et c'est ce qu'il a fait. Donc, je voulais seulement mentionnant que le Seigneur nous connaît et nous connaissons sa voix et nous le suivons. C'est lui le bon berger, mais on parle ici de David parce qu'il est né de la lignée de David. Merci.
Merci beaucoup, c'est vraiment une grande vérité. On dirait qu'il veut ressusciter encore David, non, parce que tout simplement, dans la lignée de David, il va établir un berger à perpétuité, et c'est ce berger, comme notre frère Thomas est en train de nous les lire en Jean 10, il a réellement, et il est aujourd'hui encore le berger du troupeau que nous sommes. Quelle grande vérité nous saisissons. Et nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous comprenons facilement cette prophétie. Mais imaginons ceux qui étaient en train de lire ça, dans l'ancienne alliance, pour dire, mais qu'est-ce que le prophète est encore en train de dire? Quelle lumière nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance? Nous connaissons vraiment plus sur Dieu aujourd'hui qu'il y a des années et des années de ceux qui ont servi Dieu avant nous. Merci beaucoup. Papa Richard, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Merci, Papa Pasteur Célestin, encore pour la parole. Le même verset que Papa Thomas venait de partager. Nous voyons Jésus-Christ, le bon berger. Et à la fin du livre de Jean, nous voyons aussi Jésus qui maintenant appelle Pierre pour lui dire, « M'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. » Donc, le Seigneur a fait un bon travail pour nous montrer ce qu'il faut faire. Et maintenant, le Seigneur confie ce même travail à nous autres. Et ma question que je me pose, depuis que je suis pasteur, combien de personnes j'ai écrasées? Combien de personnes ont quitté l'Église, ont abandonné les choses du Seigneur à cause de mon comportement? Dans le FIMES, combien de personnes ont quitté le FIMES à cause de mon comportement? Et ce message m'interpelle personnellement parce que non pas seulement David a fait un bon travail, non pas seulement Jésus a fait encore mieux, le Seigneur attend de moi aussi de démontrer mon amour pour lui en faisant un bon travail. Merci.
Merci, et Papa Richard, c'est interpellant pour chacun, pour chacune. Nous devons tous nous examiner combien de gens ont abandonné l'œuvre de Dieu à cause de moi, à cause de mon comportement, à cause de mes paroles. C'est interpellant pour chacun et pour chacune. Regardons la dernière partie, frères et sœurs, pour du verset 25 jusqu'à la fin. C'est une alliance qui est que Dieu, qui veut devenir le berger éternel de son troupeau, veut conclure une alliance de garantie de paix. Je débarrasserai le pays des bêtes féroces, de sorte que mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans le steppe et dormir dans la forêt. Le verset 25 démarre en concluant une alliance. Et il n'y a aucune alliance qui peut être vraiment valable quand nous comparons cette alliance que l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. C'est vraiment la véritable alliance dans laquelle nous devons nous sentir vraiment en sécurité, parce que lui-même a déclaré les paroles que personne au monde n'a pu déclarer. Ni Abraham, ni Moïse, ni Isaac, personne n'a pu déclarer que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Personne. Il n'y a que lui qui a pu conclure une alliance et qui a pu déclarer des paroles réelles. Il est avec nous chaque fois que son nom est invoqué, chaque fois il prend soin de son peuple. Une seule brebis qui dort quelque part, qui invoque son nom, il est là. Deux brebis qui s'unissent ensemble pour réellement invoquer son nom, il est là. Deux ou trois qui s'assemblent à mon nom, je suis présent au milieu de vous. Quelle alliance nous avons en ces rejetons de David. Voilà, continuons encore, frères et sœurs, à partager. J'encourage que nous pouvons revenir, partageons beaucoup, beaucoup de richesses comme un citron que nous devons presser pour réellement nous enrichir dans le texte. Voilà, nous revenons encore, papa Thomas, tu as encore la parole.
Oui, parlant de la paix au verset 25, que nous allons être en sécurité, on va habiter en sécurité, et avec le nouveau prince que nous avons, il amène la paix. Le Seigneur va dire en Jean 14, 27, il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouve point. Donc, il y a une paix que le monde donne, mais il y a une paix de Jésus. Il nous donne la paix, sa propre paix, pas comme le monde la donne. Parlant de la sécurité, le Seigneur, en Matthieu 11, 28, il va dire, venez à moi, vous qui êtes chargés, et vous qui êtes troublés, je vais vous donner du repos. Apprenez de moi, je suis humble de cœur, doux et humble de cœur, et je donnerai à vos âmes du repos. Donc, dans le Seigneur, nous avons le repos. Dans le Seigneur, nous avons la paix. Mais moi, je me dis, quand nous avons toujours des guerres, je vois des frères dire, je n'aime pas ces frères-là, je n'aime pas cette sœur-là. Mais ils sont des chrétiens de la même bergerie. Mais comment vous allez faire, puisque vous irez au ciel, et le ciel, c'est la maison de tous les enfants de Dieu. Et déjà maintenant, nous n'avons qu'un seul maître, le Seigneur. Mais comment tu vas haïr le frère et le sœur alors que vous êtes de la même bergerie? C'est pourquoi le Seigneur a dit, il faut aimer Dieu, oui, mais il faut aimer ton frère et ta sœur parce que Dieu, tu ne l'as pas encore vu. Et tu dis l'aimer. Mais pourquoi tu hais ton frère ou ta sœur que tu vois de vues yeux? Merci.
Amen. Nous pouvons vraiment dire merci. Comment nous pouvons aimer le Seigneur, quand nous ne savons pas aimer notre frère, notre sœur, lui pardonner, parce que personne n'est saint, tous nous sommes pécheurs, le seul saint et juste qui n'a commis aucun péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons apprendre à nous pardonner dans cette bergerie. La paix que le Seigneur donne n'est pas comme celle du monde. Et il crie pour la sécurité. Et ceci est valable dans tous les problèmes que nous avons. Il dit, venez. Il promet la bénédiction. Il promet le fruit. Il veut qu'il y ait des fruits. Et le fruit de vos entrailles seront bénis. Et si nous voyons des problèmes dans tel ou tel aspect, il dit, venez à moi. Voilà le bon berger. Merci beaucoup. Papa Richard, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, papa, pasteur, encore pour la parole. Le verset 25, l'expression que l'Éternel m'en parle, montre ici, il dit, vers la fin, ils habiteront en sécurité dans le désert. Le désert n'est pas un terrain où il y a la sécurité. Le désert est un terrain difficile. Mais comme il est un bon berger, il sait prendre soin de ses brebis, même dans le désert. Lors de mon dernier voyage, disons le premier voyage au Congo, je suis allé dans le quartier où j'ai grandi. Je suis allé traverser même la rivière Makelele. J'ai voulu juste revivre encore mon enfance. Je me suis posé la question, comment est-ce que nous étions encore vivants pendant que nous vivions dans des conditions aussi mortelles que... J'ai regardé l'eau où on allait se baigner, là où on allait prendre de l'eau pour boire. Je n'ai même pas voulu marcher sur cette eau-là, tellement que c'était trop sale. Mais pourtant, nous avions grandi dans ce quartier, dans ce terrain. Et le bon berger a été là. Et ce n'est pas seulement la vie américaine où il y a le pain, mais non, même dans le désert, il est un bon berger, il prend soin de nous. Et là, en tout cas, je rends grâce à mon Dieu. Merci.
Merci beaucoup, papa Richard, de regarder d'où nous venons et de voir d'où est-ce qu'il nous a tirés et de dire, nous devons lui rendre grâce. Merci beaucoup. Nous continuons, nous allons bientôt atterrir. J'aimerais peut-être une ou deux personnes d'intervenir pour clôturer et puis je vais donner la conclusion de ce texte. Voilà, Dieu effectivement demain, nous commençons avec Pasteur José et puis nous allons terminer avec Pasteur Richard et puis nous allons clôturer pour ce soir.
Oui. Vraiment, les versets allant du 26 jusqu'à la fin sont très importants puisque c'est le Seigneur qui s'engage à faire ceci ou à faire cela lui-même. Et ça montre combien Dieu met de l'importance à ce brebis que nous sommes. Je prends quand même le verset 30. Le verset 30 nous dit, tout le monde sera convaincu que moi, le Seigneur, leur Dieu, je prends leur parti et que le peuple d'Israël est vraiment mon peuple. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Ici, le Seigneur montre clairement qu'il s'engage à s'occuper personnellement de son peuple. Ici, c'est le peuple d'Israël qui est visé. Oui, Israël, peuple de Dieu, mais dans le Seigneur Jésus, nous sommes aussi Israël de Dieu.
Amen.
Et nous pouvons prendre les paroles prononcées à ce verset pour les nôtres.
tout le monde sera convaincu que moi, le Seigneur, leur Dieu, je prends leur parti. Et que Dieu prend notre parti. Il n'est pas parti seulement du peuple d'Israël, mais le parti, mon parti, notre parti. Alors, nous devons, bien aimé, nous approprier de toutes ces paroles prononcées à l'endroit ou à l'égard du peuple d'Israël. Prenons ces paroles pour nous aujourd'hui. Parce que le prince qui est là, dont on a fait allusion, le David qu'on a cité là, ce n'est pas le David, le fils d'Isaïe comme tel, mais ce David là, c'est notre Seigneur Jésus. Et Jésus n'appartient pas seulement au peuple d'Israël. Jésus appartient à tout le peuple, à tous ceux qui ont la foi, comme nous avons vu dans Romains. À tous ceux-là, bien-aimés, ces paroles sont à nous. Je suis content que le Seigneur prend mon parti et que lui, il est vraiment mon Dieu. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'autres sentiments que le sentiment de joie d'appartenir à un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout et qui nous aime. Merci.
Merci beaucoup. Ces paroles nous concernent ce soir en tant que peuple de Dieu. Merci, Papa Richard. Un peu brièvement, et puis c'est Papa Thomas qui dira en quelques mots aussi.
Merci beaucoup. Le verset 27, il y a l'expression « Et elles sauront que je suis l'Éternel ». Le verset 30 que le pasteur José venait de partager, nous trouvons encore « Elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles ». Une vérité que moi je sais. Je sais que l'Éternel est avec moi. Non pas seulement qu'à cause de ce que j'ai entendu, j'ai vu sa main en action. J'ai un sujet de prière que je voulais partager, si je peux encore trouver quelques secondes, pasteur.
Oui, allez-y.
Le dimanche, mon bishop m'avait confié un travail à faire. Je devais travailler avec une équipe de gens et nous sommes en train d'enseigner, préparer une équipe. Donc, j'ai formé et puis maintenant, les personnes formées, je devais maintenant les superviser pendant qu'ils font les enseignements. Les dimanches, j'arrive, la personne c'est moi qui devais enseigner et à partir du dimanche prochain, eux devaient commencer maintenant à suivre et moi, je devais les évaluer. Il y a une sœur qui est femme d'un autre ancien. Elle prend la place, elle veut enseigner. Bon, imaginez, nous sommes devant les membres. Je lui ai dit non, je t'ai envoyé le message que tu te prépares pour le dimanche prochain. Alors elle rentre sérieusement, déchire, elle crée tout un dossier là. Et moi, quand j'ai médité ce texte, j'ai voulu vérifier est-ce qu'il y a-t-il un faux pas de ma part? Parce que tout le monde est au courant qu'il devait commencer, je devais superviser l'un après l'autre. Mais pourquoi elle a pris cette arrogance pour prendre parce que je vais préparer, je vais enseigner, mais ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton tour, mais du fait que, bon... J'ai vérifié, en tout cas, j'ai béni le Seigneur que sa parole vient à temps pour nous aider et que peut-être je pourrais me justifier, mais la parole de Dieu est très claire. Donc, ma prière est que Dieu touche son cœur. J'ai quand même appelé ce soir parce que hier, j'ai voulu l'approcher, elle refuse. J'ai quand même laissé un message pour lui demander pardon de l'incompréhension. Et j'ai donné, du moins, le programme de tout le monde. Juste que le Seigneur touche son cœur. On n'a pas le temps de nous chamailler pendant que nous servons le Seigneur. Merci.
Oui, merci beaucoup. C'est un sujet de prière. Ce sont les bousculades qui déroule vraiment dans l'église. Et des fois, l'ennemi est derrière pour déranger le travail de Dieu. C'est un sujet de prière. Merci. Papa Thomas, brièvement, nous allons clôturer.
Oui, c'est juste pour dire que du verset 27, disons du 26 à la fin, le Seigneur est en train de montrer que ce qu'il a dit, qu'il est venu nous donner la vie en abondance. Il est venu pour nous donner la faveur, d'une année nouvelle, de la faveur du Seigneur. Mais j'ai voulu seulement appuyer le pasteur Richard quand il a parlé du désert pour nous rappeler que Dieu a lancé dans un désert 600 000 hommes adultes. Beaucoup d'entre eux avaient la femme, avec les enfants et leurs animaux. Ils ont accouché là-bas, dans le désert, mangé, bu l'eau, et ils vivaient là-bas, et ont formé les enfants dans la formation, lire et tout ça, dans un désert en train de marcher pendant 40 ans. Et la Bible dit que leurs habits n'étaient pas abîmés, leurs souliers, les chaussures, les sandales ne s'étaient pas, n'ont pas fané pendant 40 ans.
Amen.
Donc, nous avons un Dieu puissant, capable de résoudre nos problèmes et nous donner réellement la vie et la vie
Amen.
En abondance.
Amen.
Amen. Merci beaucoup. Avec ces paroles, nous allons nous arrêter là, frères et sœurs. C'est même là les dernières interventions, c'est vraiment la conclusion. Pensons à la justice de Dieu. Pensons à ne pas abîmer là où nous sommes en train de nous nourrir, de protéger ce que là où nous sommes en train de nous nourrir. Ne soyons pas égoïstes en regardant seulement nos propres intérêts et ne pas regarder aux intérêts ni des autres, ni les intérêts de Dieu. Dieu est jaloux, il tient vraiment la sécurité de son peuple. Il prend soin de son peuple. Ces paroles qui ont été données ce soir, ces paroles nous concernent. Voilà pourquoi le tout dernier verset, il va dire, vous mes brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes et moi, je suis votre Dieu, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Amen.
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 Voilà, frères et sœurs, le texte de demain. Donc, demain, nous entrons au mois d'avril. Nous continuons avec Ézéchiel. Nous allons méditer Ézéchiel 35, du premier verset jusqu'au verset 15e. Donc, c'est en fait tout le chapitre 35 que nous allons méditer demain. Premier verset jusqu'au verset 35. Je voudrais rapidement saluer jusqu'au verset 15. Oui, merci. Les frères et sœurs qui ont médité avec nous ce soir depuis North Carolina, depuis l'Alberta, depuis Québec, soyez bénis là où vous êtes. Papa Gaston, élève la voix pour prier. Pour j'espère, non? Papa Gaston est disconnecté déjà. Je jette un coup d'œil. Je dis, papa Jean-Baptiste.
Oui, pasteur.
On élève la voix pour nous recommander à la grâce du Seigneur.
Oh, merci beaucoup. Prions le Seigneur. Donc, mon Père, notre Dieu, nous venons te rendre grâce ce soir, Seigneur, pour l'interpellation que tu nous as faite, Seigneur. Tu veux nous voir bannir l'égoïsme parmi nous, Seigneur. Tu veux nous voir avoir de la considération même pour les plus petits d'entre nous. Tu veux, ô éternel Dieu, que nous puissions compter sur toi, car tu es celui qui sécurise mieux que les gardes-corps, mieux que l'armée américaine, mieux que les troupes d'élite de ce monde, Seigneur. Donne à tout un chacun de nous la force de vivre cette parole Que ça ne soit pas de la routine, Seigneur, mais que ces paroles transforment nos vies et nos familles. Que nous puissions les appliquer au quotidien, que nous puissions y veiller, oh Seigneur, donne-nous la force, donne-nous une mémoire fertile pour garder cette parole et la force, Seigneur, pour la pratiquer. Merci de bénir tous ceux qui sont intervenus pour nous édifier. Merci de te souvenir, Seigneur, de celui qui a connu les débats. Merci aussi de nous sécuriser cette nuit pendant notre sommeil. Tu connais, ô éternel Dieu, combien l'ennemi rôde autour de nous pour nous faire du tort, nous et les membres de nos familles. Mais nous nous appuyons sur toi, car toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Ouvre-nous, Seigneur, sous tes ailes. Donne-nous réellement du repos sans que l'ennemi ne puisse les troubler. Et si jamais nous nous réveillons demain, le matin, nous ne manquerons jamais de te dire merci. Tu sais, ô éternel Dieu, ceux d'entre nous qui ont des problèmes de santé, que tu interviennes parce que tu es la guérison. Que tu interviennes parce que dans les mercissures de Jésus, nous avons tous été guéris. Ceux qui sont confrontés aux problèmes des finances, Seigneur, aux problèmes du travail, aux problèmes de l'immigration, tu es le Dieu qui contrôle tous les circuits, toutes les immigrations sont sous ton contrôle, Seigneur. Tu es sans limite, interviens. Que toute la gloire te revienne à toi, le seul et le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Amen. Merci, notre Dieu, pour prendre soin de ton fils Richard et de tout ce que ce problème a causé dans l'Église. Nous te prions d'être Seigneur et Maître de toutes choses. Que toute la gloire te revienne et que ta paix nous accompagne, cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Oui, peuple de Dieu, allons en paix et que le Seigneur nous garde.
Amen. Amen.